Depuis le début des années 90, la participation électorale recule. Que faut-il en déduire ? Y a-t-il en France une montée de l'individualisme, un rejet du politique ? Apparemment non, la démocratie participative ne leur convient peut-être plus vraiment, mais si les Français ne trouvent plus dans leur droit de vote un moyen d'exprimer leur voix, de nouveaux modes d'expression citoyenne émergent. Qu'ils prennent la forme d'ateliers citoyens, de conseils de développement, de blogs, de cafés citoyens, de forums, de débats ou de rencontres de quartier, ces modes d'expression témoignent au contraire d'un renouvellement de la participation et de l'engagement citoyen. Les citoyens ont envie de se mêler de ce qui les regarde. Ils sont aujourd'hui prêts à trouver d'autres formes de participation, des formes collectives de participation, pour agir ensemble. Ces hommes et ces femmes s'engagent pour des causes très diverses et à des échelles très variées. En tout cas, tous ont un sens aigu de l'intérêt général et participent au renouveau de la vie publique. Au cours de ce dossier, nous allons donc essayer d'explorer les différentes facettes de la démocratie participative. La liste ne sera bien sûr pas exhaustive, mais elle cherche juste à nous donner quelques pistes de réflexion. Pour nous accompagner au cours de ce dossier, nous avons le plaisir d'accueillir Fabrice Néret. Fabrice Néret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des cafés Sciences et Citoyens à Grenoble. Bienvenue dans la vie locale ce matin pour discuter de démocratie participative. Les cafés des sciences sont aussi une incarnation de la démocratie participative. Nous en parlerons ensemble au cours de ce dossier. Mais avant, premier zoom ce matin sur les ateliers citoyens mis en place par la région. Rhône-Alpes est la première région en France à avoir mis en place des ateliers citoyens. Cette démarche lancée au printemps 2005 s'est donné l'objectif de construire Rhône-Alpes ensemble. En résumé, la région souhaite ainsi rapprocher l'institution des citoyens et remobiliser la société civile autour des grands sujets qui la concernent. Les thèmes sont multiples, transport, jeunesse, agriculture, emploi, environnement, logement. Mais il existe aussi des sujets relatifs à la vie de tous les jours comme la solidarité intergénérationnelle ou encore le rôle des services publics. Cette démarche a déjà mobilisé 11 000 habitants de la région Rhône-Alpes. Philippe Auguste, le vice-président du conseil régional chargé de la démocratie participative, lui est satisfait des premiers résultats de ses ateliers citoyens. Philippe Auguste.
Les ateliers citoyens sont le prolongement de réunions publiques qui ont eu lieu l'an dernier au printemps et qui ont rassemblé plus de 11 000 Rhône-Alpins sur les thèmes qui en fait avaient été choisis par les Rhône-Alpins eux-mêmes à travers une enquête audiovisuelle. L'emploi et la formation, les transports, le logement, la jeunesse, le vivre ensemble, la démocratie participative, le monde rural. Donc on a décidé d'inscrire cette démarche dans la durée. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire des ateliers qui vont reprendre en fait les thèmes que je vous ai cités. Et le premier atelier s'est réuni pendant 3 week-ends. Donc l'atelier était composé de citoyens, de 50 citoyens tirés au sort parmi les 11 000. Ils ont planché sur le thème de l'avenir du monde rural, ils ont produit un avis citoyen, des recommandations. Il y aura 6 ateliers citoyens qui vont donc s'échelonner jusqu'en 2009. Nous avons aussi, et ça j'y tenais beaucoup, envoyé l'avis de l'atelier citoyen aux 11 000 participants en réunion et ils ont répondu, il y en a 350 qui ont répondu de manière souvent très très argumentée. Et donc on a fait un résumé de ces réponses, des 11 000, qui donc a été ajouté aux documents qui ont été envoyés aux élus.
Et alors, au niveau des conclusions de ces rencontres, de ces ateliers, est-ce qu'elles sont vraiment prises en compte par la suite par les élus ?
Oui, moi j'y tiens beaucoup. Un certain nombre de ces recommandations vont être suivies des faits. D'ailleurs, les citoyens, ils souhaitent être associés à la mise en œuvre de ces recommandations. Donc on va réfléchir comment perpétuer finalement l'atelier citoyen pour qu'ils puissent mettre en œuvre ces recommandations. Puis, on a fait un petit film qui a présenté l'atelier citoyen et il y a une citoyenne qui a participé à l'atelier qui a dit s'il y avait une seule de ces propositions retenues par les élus, on serait très content. Et il y en a, en réalité, il y en a eu plusieurs. Mais bien évidemment, il n'y a pas que ça comme chantier de la démocratie participative dans la région. Il y a beaucoup de chantiers dans les territoires. Par exemple, les instances territoriales participatives sur l'emploi et la formation qu'on a mis en place dans 28 territoires. C'est une première en France puisqu'il y a un collège citoyen. Il y a 5 collèges, dont un collège citoyen dans ces instances. Il y a les comités de ligne sur les transports express régionaux avec des usagers, des syndicalistes, la SNCF, des élus locaux qui contribuent à améliorer la qualité du service. Donc ça, c'est au niveau des territoires. Il y a aussi, bien sûr, le développement de la participation citoyenne dans les politiques régionales. dans la culture, dans le tourisme. Tous les vice-présidents s'y mettent peu ou prou, ce qui prouve qu'on a réussi à créer une dynamique dans la région. Et puis, troisième dimension, directement mondiale, puisque nous allons organiser l'an prochain un forum mondial sur le thème la démocratie participative dans les territoires, pour quelle mondialisation ?
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'une proposition citoyenne qui peut être appliquée après ?
Dans le domaine de l'agriculture, il y a effectivement des propositions qui ont été faites pour soutenir davantage les agriculteurs. Je souligne d'ailleurs que le panel citoyen aura une dimension européenne, puisque 10 d'entre eux vont être associés à un panel européen. Et donc la question, est-ce qu'il faut des aides aux agriculteurs, des subventions, ou est-ce qu'il faut une politique qui sur les prix, a été posée dans l'atelier, va être posée à l'échelle européenne. Donc on voit bien que ce n'est pas des petites questions qui sont abordées. Dans l'aménagement du territoire, il a été dit qu'il fallait que la région s'occupe d'essayer de corriger les inégalités entre les territoires, entre la ville et la campagne, faisant en sorte que les services publics soient maintenus dans la campagne. Donc voilà, ça c'est des recommandations qui ont été faites, où la région peut apporter un certain nombre de réponses, bien sûr concrètes, précises, même si elle n'a pas toutes les réponses. Par exemple en matière d'emploi, elle contribue aux solutions, mais elle n'a pas toutes les réponses. Moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les citoyens veulent qu'ils puissent participer aux décisions. C'est le maître mot de toutes leurs propositions. Et ça, c'est très fort parce que c'est exactement ce qu'on souhaite faire. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'évaluation des élus. Par exemple, eux, ils proposent un jury citoyen tiré au sort. C'est marrant, ça vous rappelle quelque chose. Mais c'est pas pour évaluer l'action des élus, c'est pour qu'ils puissent participer aux décisions. Donc, on va plus loin que la simple évaluation de l'action des élus. On crée des espaces, des outils dans lesquels les citoyens sont partie prenante, quoi. Ils sont entendus, écoutés et participent aux décisions, et ça c'est tout à fait novateur. Je crois que la région Rhône-Alpes est la région la plus avancée de toutes les régions en matière de démocratie participative, et c'est une très bonne chose. Et donc si ça peut déboucher toutes ces expérimentations vers une 6e République qui soit vraiment participative, eh bien je crois qu'on aura fait un grand bond en avant.
Alors nous venons d'écouter Philippe Auguste, le vice-président du Conseil régional chargé de la démocratie participative. Qu'est-ce que ça vous inspire, Fabrice Nérès, ce genre d'atelier citoyen ? Est-ce que vous sentez à travers cela un renouveau de l'envie de participer à la vie politique, de s'interroger sur des sujets qui nous concernent en tant que citoyens ?
Alors, juste par pour l'anecdote, renouveau m'évoque un peu les années 70 avec l'engouement qu'il y avait eu pour l'autogestion ou le syndicalisme politique au sens large, ce genre de choses où il y avait envie de participer aussi.
Et, ça fonctionne par vagues en fait. Il y a des moments où la politique intéresse, d'autres où on sent un recul. Et là aujourd'hui ça revient, c'est un petit peu pareil.
Sans doute, je ne dis pas non plus que c'est exactement la même chose, mais c'est intéressant de faire le parallèle. Juste le point que vous disiez par rapport au vote, en même temps je crois qu'il y a une différence à faire entre le fait de s'exprimer par un vote où finalement il n'y a que à choisir entre deux ou trois personnes, et puis après on est un peu l'otage de ce choix très ponctuel pendant longtemps, et le fait de pouvoir s'investir dans la chose publique, y participer finement. Et autant on peut espérer que l'intérêt dans la chose publique puisse amener également à avoir un impact à ce que plus de gens votent. Autant, je pense, ce sont deux choses un petit peu différentes. Et quelque part, c'est rassurant, parce que souvent, le français est quand même très politique, il lit le canard enchaîné, il se délecte des guignols de l'info, ce genre de choses, mais on en arrive souvent au yaka faucon et aux grandes phrases à l'emporte-pièce, c'est très vague. Et ici, c'est autre chose dont on parle ici, c'est vraiment, s'approprier des vraies questions compliquées, avec des aspects budgétaires, et donc c'est vraiment l'aspect concret, je dirais, adulte de la vie publique, et ça c'est intéressant.
Prendre du temps, participer à des ateliers, c'est aussi ça, c'est s'investir dans ces grandes questions. Là, on voit qu'il y a de nombreux ateliers qui vont se dérouler toute l'année. Est-ce que c'est vraiment positif, selon vous, cette participation, cette voix qui est donnée par la région ? Philippe Auguste nous disait que la région Rhône-Alpes est la première région en France à faire ce genre de choses. On est en avance aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, c'est vraiment positif, ce genre d'action ?
Alors, je ne connais pas assez ce cas-là. Disons que, bien souvent, il faut voir quelles sont les intentions. Est-ce qu'il s'agit d'instrumentaliser ou vraiment de faire fonctionner ? Indépendamment des intentions, il faut faire attention aussi aux biais qui font que bah, on pourrait finalement faire une opération de com qui ne corresponde pas après à une vraie réalité. Là, j'ai pas l'impression à ce que j'entends que ce soit le cas. Mais disons que bien souvent, l'enfer est dans les détails, comme je dis souvent. Donc, s'il s'agit de prendre des décisions, bah, la question de savoir qu'est-ce qu'il y a eu comme information préalable pour nourrir la décision, éventuellement comme formation, mais en ce cas-là, le problème de qui la donne. Là, la personne parlait de vouloir mettre en œuvre des choses. Donc, ça veut dire se mêler à l'exécutif. Quel suivi on a après, quel indicateur on a de la réussite. Voilà. Après, on entre dans un processus qui est complexe. Et voilà, pour que ça marche bien, bah, il ne s'agit pas juste de prendre des citoyens comme ça, de leur demander le soir de s'intéresser à la question de prendre des décisions et puis après au revoir tout le monde. Pour que ça marche dans le suivi, bon, ça demande une bonne organisation pleine de pièges et de choses trappes. Je veux dire que sans même parler de manipulation, simplement parce qu'il faut que ce soit bien organisé pour que ça marche bien. Et donc après, au cas par cas, il faut voir effectivement si ça se passe de façon authentiquement efficace.
Ça veut dire qu'il faut prendre le temps, qu'il faut, par exemple, ces ateliers citoyens, par exemple, un atelier est développé sur 3 week-ends. Donc les personnes qui ont été sélectionnées parmi les 11 000 vont travailler durant 3 week-ends sur un même sujet. C'est quand même déjà laisser le temps. Ici, c'est plutôt positif.
Oui, oui, mais la question, c'est que, par exemple, comment ils auront été formés pour avoir les bons ingrédients pour prendre la décision ? Est-ce que les gens qui les ont formés sont liés aux gens dont il s'agit de suivre ? Et après, ben voilà, cette l'action qui va suivre va durer pendant l'année. Est-ce que les personnes qui seront interrogées l'année suivante auront une continuité ? Voilà, c'est ce que j'appelais le suivi.
D'accord, donc on va effectivement voir que c'est un sujet, le sujet de la formation qui revient un peu dans les différentes sphères de démocratie participative. À partir de quel moment on peut donner une place aux gens et quelle place on leur donne ? Est-ce qu'on leur explique finalement ce qu'ils doivent faire ou est-ce que c'est eux qui arrivent seuls avec leurs idées ? C'est une question que nous aborderons plus tard. Peut-être vous souhaitiez ajouter quelque chose ?
Oui, juste le bon point quand même qu'il faut retenir. Donc souvent le politique a peur de demander son avis à la population en disant ils vont pas savoir, ils vont se bloquer, oulala. Et en fin de compte, je trouve que c'est extrêmement rassurant de voir que d'une part, il y a beaucoup plus de gens qu'on croit qui sont prêts à participer, à se mobiliser à la chose publique, qui sont capable de fonctionner de façon adulte et de donner des avis pondérés, motivés et pertinents par rapport à ça. Et donc, effectivement, pour moi, c'est un encouragement à essayer de recréer le lien et à de faire qu'on élimine un peu ces blocages qu'on a beaucoup en France et cette défiance depuis le haut vers le bas et depuis le bas vers le haut, en donnant la chance en fait aux gens de pouvoir être adultes et de se rendre compte qu'ils sont capables de l'être.
Alors après cette première étape dans la démocratie participative, on va maintenant faire un tour, un autre détour, du côté d'une autre forme de démocratie participative. Il s'agit des conseils locaux de développement. Alors, dans ces conseils locaux, les citoyens amènent leurs idées, leurs propositions, leurs critiques. Ils travaillent ensemble sur des questions d'intérêt général et mettent des avis. Et ces avis seront ensuite examinés par les élus. Donc, ces hommes et ces femmes n'ont pas pour ambition de se substituer aux élus, d'exercer une sorte de contre-pouvoir. Ils veulent comprendre, être entendus, associer et apporter leur expérience. Nous avons rencontré 3 membres du conseil local de développement du Grésivaudan, Marie-Josée Stutz, Nicolas Amodio et Muriel Savigny. Ces 3 personnes nous expliquent les enjeux du Conseil des développements dans le Grésivaudan. Et tout d'abord, Marie-Josée qui nous donne une petite définition.
C'est un conseil, une assemblée consultative qui a été mise en place à l'occasion de la mise en place des pays, donc du pays du Grésivaudan, suite à la loi Voynet de 99, et qui permet, cette assemblée consultative, de donner des avis à l'Assemblée des élus du pays, parce que ce conseil consultatif est composé de personnes issues du monde associatif, du monde économique, du monde social, du monde culturel, et représentant un petit peu de tout ce monde-là à l'intérieur du pays.
Donc c'est donner une voix autre qu'une voix institutionnelle, en fait.
Voilà, c'est ça. Et la donner dans ses multiples facettes, dans ses multiples approches, parce que le Conseil de développement est par nature très divers dans sa composition.
Comment est-ce que ça s'est passé dans le Grésivaudan, cette mise en place du Conseil de développement ?
Il a été mis en place, donc, c'est du fait des élus qui ont sélectionné, peut-on dire, un certain nombre d'associations, d'instances représentatives pour constituer ce Conseil de développement. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 3 parties importantes qui sont assez complètement représentés. Il y a l'aspect syndical, donc les syndicats qui sont représentés. Il y a donc le pouvoir économique, hein, à travers les, leurs instances. Et il y a donc une large représentation du mouvement associatif, donc qu'il soit sportif ou qu'il soit citoyen, qu'il soit défense de la nature, etc. Donc ce mouvement est largement représenté. Alors, à la mise en place, donc, au départ, la loi donc, permet aux élus de mettre en place. Et les élus donc, voient ce conseil comme bon, un élément consultatif, tel que le prévoit la loi, mais ne le voient pas, ou en tout cas ne le souhaitent pas, comme quelque chose qui va entamer le pouvoir des élus. À l'inverse, le conseil, lui, eh bien, s'installe, pensant, à tort ou à raison, qu'il a ou qu'il doit avoir un certain pouvoir, qui devra donc s'opposer aux élus. Et de là donc naît une opposition qui est l'opposition des pouvoirs, qui crée donc un certain nombre de problèmes et qui fait que pendant un certain temps, ben, il faut effectivement essayer de trouver le moyen de discuter, de se rapprocher, d'avancer. Jusqu'au moment où, quand même, de part et d'autre, c'est-à-dire du côté des élus, on s'aperçoit que eh bien, le Conseil de développement, ce n'est pas simplement une instance qui veut prendre un pouvoir, l'exercer, l'imposer aux élus. Et de même, du côté du Conseil de développement, bah, on s'aperçoit que, bah, il n'y a peut-être pas à s'approprier un pouvoir que l'on n'a pas ou que l'on ne nous a pas forcément donné, et l'opposer aux élus, puisque c'est une confrontation qui devient stérile.
Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer dans quelle mesure des idées peuvent être entendues ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour que les avis des différentes personnes qui composent la société civile soient entendus ? Quelles sont les conditions ?
Il y a deux conditions minimum. La première, c'est que la société civile ait déjà quelque chose à dire et soit en mesure de l'exprimer. Le Conseil de développement, à ce moment-là, peut être le relais de cette parole-là. Ensuite, il faut une deuxième condition, c'est avoir un interlocuteur qui soit prêt à entendre ce que cette parole a à dire. Et une fois qu'on a ces deux conditions instaurées, une parole exprimée et un interlocuteur en mesure de l'entendre, c'est une question de discussion, de rencontre, de négociation. On avance les choses au fur et à mesure. Et...
En fait, est-ce que les gens viennent vous faire une demande ? Comment ça se constitue, en fait, ces discussions ? Quels sont les thèmes sur lesquels vous travaillez et pourquoi ces thèmes-là ? Comment est-ce qu'ils arrivent jusqu'à vos oreilles, à vous, en tant que groupe d'animation ?
Pour permettre donc l'expression, je dirais bon, l'expression citoyenne. Bon, il y a, en plus de ce qu'a dit Muriel, qui est tout à fait donc important et absolument nécessaire, il y a la nécessité de créer les conditions, parce que les gens ne vont pas spontanément vers. D'accord ? Il faut créer les conditions, c'est-à-dire que voilà, il faut pouvoir organiser par exemple des réunions ou avoir des lieux où les gens donc peuvent venir, soit en réunion, soit en des lieux. Enfin, il faut organiser quelque chose pour permettre donc aux gens de venir exprimer quelque chose. Et à partir de ce moment-là, donc voilà, c'est pris. Où ça peut être pris en compte par le Conseil de développement, mais ça peut aussi l'être directement par les élus, je veux dire, c'est pas exclusif. Eh bien, les élus ayant connaissance de demandes, de problèmes, de remarques, etc., ils ne sont pas forcément plus idiots que les autres, ni plus bornés que les autres, voyant donc la justesse de la demande et l'intérêt général de la demande, bah, ils peuvent l'intégrer dans ce qu'ils ont prévu, quitte à modifier un petit peu ce qu'ils ont prévu.
Est-ce que vous pouvez nous parler des grands thèmes que la société civile a voulu aborder dans votre conseil de développement ?
Il faut dire que le conseil de développement, depuis le départ, a été invité à participer aux commissions des élus. Donc, les thèmes qui sont travaillés essentiellement par le Conseil de développement sont les thèmes travaillés dans le cadre de ces commissions. Ça, c'est déjà la base. Mais il est vrai que le Conseil de développement a aussi la possibilité d'autosaisine et pourrait travailler sur d'autres thèmes qui lui seraient demandés par des citoyens ordinaires dans d'autres cadres. Alors, pour l'instant, les thèmes abordés comme celui de l'AOTU, c'est un thème prioritaire. Le thème des déplacements et des transports dans le pays du Grésivaudan est un thème prioritaire. Donc, le Conseil de développement s'en est particulièrement préoccupé. Un autre thème qui a été aussi très cher et même encore plus prégnant dans le Conseil de développement depuis l'origine, c'est le thème du développement durable. Dans ses multiples facettes. Ce qui fait qu'il y a eu un travail dans ce domaine, il y a même eu une demande de formation au sujet du développement durable, Et c'est un travail que le Conseil de développement essaie d'approfondir pour donner un avis qui soit dans cette dynamique-là pour toutes les actions engagées par le pays. Alors, je dirais que c'est les deux thèmes, mais il y en a d'autres. Et il y a des questions, c'est vrai, qui nous sont posées par les citoyens et que nous pourrons ou nous pourrions prendre dans le cadre d'une autosaisine, dans la mesure de nos moyens, en temps, en disponibilité. Oh.
Vous avez des exemples ?
Ben, par exemple, on commence à entendre des questions un petit peu partout et qui sont publiées dans les médias concernant les commerces. L'implantation de grandes surfaces. Alors, ça revient, est-ce que ça...
Non, mais attends, on n'a pas été interpellé en tant que conseil de développement par qui que ce soit jusqu'à maintenant.
Interpellé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vous envoie une lettre,
Voilà, ouais.
On entend, on peut dire qu'en tant que membre du conseil de développement, on est chacun inséré dans un réseau ou dans une association ou de quelque manière que ce soit. Et là, on entend des demandes. On entend qu'est-ce que vous faites en tant que conseil de développement sur tel ou tel point. C'est vrai qu'on ne nous fait pas une lettre par écrit. On entend des choses. Le conseil de développement se dit bien et garde cette préoccupation de l'autosaisine, de pouvoir se dire un travail pourrait être fait sur tel ou tel thème. Mais pour l'instant, on ne l'a pas encore mis en œuvre.
Enfin, je veux dire, on n'a pas été en capacité de faire quoi que ce soit par rapport à ça.
Mais on l'a gardé comme possibilité, mais on n'a pas pu encore le mettre en œuvre. Des thèmes qui nous seraient posés directement, sans faire l'objet d'un travail de commission, pourrait très bien être pris en compte par le conseil de développement qui s'interroge et qui apporte aux élus, ben voilà ce qu'on a réfléchi.
Pourquoi c'est difficile encore de mettre en place ça ?
Au niveau de l'autosaisine, on n'est même pas clair au niveau du conseil de développement sur ce qu'on est capable de faire et sur comment on le ferait. On n'a absolument pas du tout travaillé sur une méthodologie quelconque. On est vraiment dans le flou le plus total. La seule chose qu'on est capable de faire et qu'on commence à savoir à peu près faire, c'est répondre aux demandes des élus qui... par rapport au contrat, on posait un certain nombre d'actions, propose un certain nombre d'actions régulièrement, et ça, on a à peu près mis en place un fonctionnement qui nous permet de suivre à peu près les dossiers et d'être un petit peu pertinent là-dessus. En ce qui concerne les compétences du Conseil de développement lui-même, moi, il me semble, enfin, vous me contredirez si vous n'êtes pas d'accord, mais il me semble qu'on est dans le flou le plus total. Nicolas, tu disais, mais il faudrait peut-être qu'on définisse l'autosaisine. Qu'est-ce que c'est l'autosaisine ? Quelle méthode on utilise pour la mettre en œuvre ? Eh bien ça, moi, je suis incapable de répondre. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, mais ça, on l'a depuis le début. Quant à la capacité, c'est à faire. On est en chantier par rapport à ça.
La difficulté du Conseil de développement à avoir quelque chose de bâti, qu'on voudrait voir tout de suite, là, bâti, structuré, vient de ce que le Conseil de développement s'est imposé de faire un travail sur un mode transversal. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur un aspect et on oublie tous les autres, mais quand on travaille sur un axe, on n'oublie pas les autres axes. Donc, ce qui fait qu'à partir de là, ça devient plus difficile quand on fait donc ce travail. Et effectivement, il n'y a pas seulement l'impression, mais il y a la réalité du conseil de développement qui est toujours en construction. Parce que l'aspect transversal du travail bien fait qu'on ne peut pas, enfin à mon sens, dire à un instant donné, bah ça y est, c'est bâti, cet axe est fermé, c'est comme ça. Non. Ça n'est pas vrai, parce que les sujets sont importants. Quand on prend l'emploi, qu'il faut le lier au logement, qu'il faut le lier au transport, qu'il faut le lier à l'environnement, on ne peut pas s'occuper d'une partie, parce que chaque partie donc interagit sur les autres et doit être vue dans un accord le moins mauvais possible avec les autres.
C'est pas trop compliqué de faire bouger cette énorme machine ?
On peut avancer, et moi je dirais qu'on avance, même si on n'avance pas vite, mais on avance, et en tout cas, donc, avancer sans prendre en compte la situation de cette manière-là, je crois que ce serait une erreur et ça irait à l'encontre de ce pourquoi le Conseil de développement a été prévu par la loi Voynet. Donc, effectivement, on avancera, on peut donner l'impression d'avancer moins vite, mais ça n'est que relatif, parce qu'on avance moins vite, mais sur un front beaucoup plus large. D'accord ? Effectivement, on pourrait avancer plus vite sur un front restreint, réduit.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Nicolas, et je pense que, justement, quand on parlait de le Conseil de développement, c'est un chantier, je pense que c'est même sa vocation, quasiment, d'être un chantier tout le temps. Et le jour où on dira, ça y est, on est bien installé, on a compris comment ça marche, et puis ça roule... Là, moi, je me poserai des questions.
C'est que le conseil de développement sera renouvelé.
Alors, beaucoup de bonne volonté, d'envie, mais dans les faits, c'est plus compliqué. Fabrice Néret, est-ce que vous pensez, vous, que la démocratie participative soit par définition toujours en chantier ?
Bah, surtout, ce que je vois là, c'est extrêmement intéressant d'entendre ce débat où justement la porte est un peu entrouverte et on voit les gens en train d'en discuter. Ce qui est intéressant, c'est que là où on se rend compte, ouais, c'est pas juste une idée simple. Démocratie, ce qu'on appelle un peu en zététique un mot valise qui veut tout dire et rien dire. On peut donner le sens qu'on veut. Là, on se rend compte qu'effectivement, il faut des règles du jeu. Il faut une organisation. Il faut savoir quel protocole, qui on représente, qu'est-ce qu'on fait, quel lien avec l'élu, etc. Et donc, en fait, ces gens-là, dans l'exercice de ce qu'ils font, se rendent compte. Et pose toutes ces questions intéressantes qu'il faut bien peut-être réussir à organiser. Donc la question de savoir, c'est tout à l'heure, les personnes précédentes voulaient pouvoir être liées à la mise en œuvre. Ici, il s'agit plutôt d'avoir des positions ou des avis, ou alors peut-être un jour, je ne sais pas, d'évaluer ce qu'ont fait les services municipaux, ou alors, puisqu'ici il s'agit de gens représentatifs, de faire remonter la parole dite, mais comment on sait ce qu'elle représente? Puisqu'on est représentatif, est-ce qu'il faut rendre des comptes après? Et toutes ces questions sont en soi extrêmement saines parce que voilà, il faut organiser quelque chose.
Justement, la question de la représentativité, je trouve, est très importante parce que finalement, ces gens font partie d'associations. Est-ce qu'ils sont en lien direct tous les jours avec les associations? Est-ce qu'ils font un retour des discussions qui peuvent avoir lieu dans le conseil de développement? Je trouve que cette question de la représentativité est importante dans la démocratie participative car finalement, on représente qui, on représente quoi? Et est-ce qu'on représente une minorité, une majorité? C'est toujours la même question. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle?
À la fois, comme toujours, tout est possible du moment qu'on sait ce qu'on fait, pourquoi on le fait, dans quel but c'est, et qu'on est sûr qu'on n'a pas fait, sans le se rencontre, un choix qui va être un biais ou pas un biais. L'autre problème, c'est le problème de l'efficacité. Je crois que c'est Churchill qui disait que la démocratie, c'est un système qui fait beaucoup de réunions le soir. Moi, je connais un peu ça dans les discussions qui ont lieu dans le cadre du conseil consultatif de secteur à Grenoble, toutes les discussions qu'il y a typiquement pour Grenoble Sud en ce moment, où à la fois, d'un côté, on veut plus de transparence, plus de réunions, pouvoir se penser sur plusieurs choses, et en même temps, finalement, on voit un peu tout le temps les mêmes pendant les réunions, et puis les gens motivés, quelle est la part d'avis à eux par rapport à l'effet qu'ils représentent. Donc ici, par construction, ce sont des gens qui représentent des associatifs, etc. Donc organiquement, on a un peu plus de garanties peut-être qu'ils sont la voix de quelque chose. Maintenant, encore faut-il après savoir comment on organise le fait d'être sûr que on ne fait pas remonter juste la râlerie qu'on a entendue ou ce à quoi on est sensible, mais quelque chose de représentatif, et comment on rend des comptes après.
Alors justement, on a ici des gens motivés, des gens engagés déjà, qui ont envie de s'investir, et puis on va voir maintenant un troisième zoom, des gens tirés au sort, qui sont pas forcément là, qui n'ont pas forcément demandé de participer à la démocratie participative. Alors troisième zoom, nous nous sommes intéressés aux comités consultatifs. Alors c'est quoi des comités consultatifs? Par exemple, à Pont-de-Claix, un certain nombre de personnes sont tirées au sort à partir de listes électorales. On leur demande alors si elles acceptent de participer, par exemple, au comité de gestion de la commune. C'est ce qui est arrivé à Janine Bernard, une habitante de Pont-de-Claix. Elle ne s'y attendait pas et du jour au lendemain, elle a eu l'impression d'avoir été entendue.
J'ai été tirée au sort sur les listes électorales.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'aviez rien demandé et on vous a tiré au sort comme ça parmi toute une population? Parmi combien?
Il y a 35 personnes qui ont été tirées sur liste électorale, tirées au sort, complètement au hasard. 7 jeunes de 18 à 25 ans, ainsi que 8 membres délégués par les comités de quartier. Ces gens ont été invités à participer au conseil consultatif budgétaire.
Ça voulait dire qu'on vous invitait à participer, à prendre des décisions, à être simplement présent? Ça voulait dire quoi?
La présence est importante, parce que si on s'engage à participer, il faut être régulier dans la participation. Ça demande un investissement quand même, au niveau du temps. C'est quand même 8 à 10 réunions par an. Il faut le savoir au départ, quoi.
Vous, en fait, vous n'étiez pas du tout préparé à ce genre de choses. Comment vous réagissez-vous à ce moment-là?
Tout de suite, j'ai dit oui. Parce que je voulais aller plus loin dans la démarche de compréhension, de savoir comment était gérée une commune, comment ça se passait réellement au niveau de la gestion.
La gestion, c'est quelque chose que vous connaissiez déjà ou...
Non, je ne connaissais pas. Je ne savais pas du tout comment étaient attribuées, les commissions, comment se passait dans chaque instance, comment ça se passait. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, sûrement. rapidement, mais disons que déjà, ça donne un aperçu de savoir comment ça se passe, quoi. Comment ça se passe, quel est le coût des actions menées, comment est affecté donc au budget les sommes allouées pour les dépenses, pour les recettes. Donc, c'était très, très important. C'était pour moi de voir un petit peu comment ça se passait.
Est-ce que vous aviez un rôle précis à jouer ?
Oui, on participe parce que on peut prendre la parole et si on a des choses à dire, eh ben, on peut le dire.
Avec le recul de cette expérience-là, qu'est-ce que ça vous a appris finalement d'une étude et d'une conclusion ?
Oui, ben, j'ai vu que c'était profond, quoi. Que c'était pas des mesures qui étaient prises comme ça à la légère, que derrière il y avait tout un travail, toute une étude. Pour moi, c'était important de voir que ça se passait comme ça, quoi.
Ça veut dire qu'en tant que citoyen, quand on reçoit des informations chez soi, les informations du quartier, les informations de la ville, c'est pas évident forcément de comprendre pourquoi un budget a été voté comme ça, pourquoi on alloue telle somme pour refaire un quartier, pour refaire, je sais pas, une fontaine ou quelque chose. Là, vous, vous avez pu comprendre, vous êtes rapproché de ce centre de décision.
Voilà, de ce centre de décision.
Est-ce que vous avez l'impression que les gens ont cette envie, ce besoin aujourd'hui de participer à la vie de leur cité ?
Moi, je pense que oui. Oui, les gens ont envie.
Aujourd'hui, on a besoin de savoir comment ça se passe finalement.
Ben, c'est-à-dire que, bon, lire, c'est bien, mais après, aller sur le terrain et voir comment ça se passe, ben, je trouve que c'est encore mieux, quoi, d'y participer. C'est vraiment, disons, plus transparent. Parce que, bon, on sait qu'il n'y a pas que des mots derrière. Il y a des choses qui se font et que c'est une réalité.
Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets qui vous intéresseraient ? Est-ce qu'il y aurait d'autres domaines que vous auriez envie d'explorer dans la vie de votre ville ? Est-ce que vous avez envie encore d'être présente dans d'autres discussions, dans d'autres conseils d'administration, ce genre de choses ?
Oui, oui, j'ai envie de participer parce que maintenant j'ai plus de temps, hein, disons, pour le faire. Mais c'est certain que je ne voudrais pas non plus que ça devienne, disons, une obligation. Si je m'engage, en tout cas, c'est pour un engagement, disons, fort. Parce que sinon, si je dis je m'engage et puis je ne vais pas aux réunions, ça ne sert à rien, quoi. Alors, ce n'est pas en termes de légalité, parce qu'il n'y a pas de loi. Les élus ne sont pas forcés de le faire. Et donc, je trouve que c'est drôlement bien qu'ils le proposent et que ça existe, quoi. C'est drôlement bien. Parce que chacun, à notre niveau, ben, on a un vécu, on a des idées à partager au jour le jour. On vit des choses dans notre quartier, on voit des choses, on est sensible à certaines choses.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu, que votre voix a été entendue ?
Oui. Oui, j'ai l'impression d'avoir été entendu. C'est une bonne expérience, oui. Je la souhaite à d'autres gens et je trouve que d'autres gens devraient venir parce que aussi ils ont sûrement des choses à dire, une réflexion à mener et je trouve que c'est vraiment une bonne expérience.
Alors Fabrice Néret, quand on a entendu Janine Bernard nous exprimer les résultats de cette expérience, est-ce que selon vous ces comités ont réellement une utilité ? Parce que j'ai l'impression que quand on dit comité consultatif, finalement, comme dans toute démarche de démocratie participative, ça veut dire en quelque sorte qu'on n'accorde pas la faculté de décider. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ?
Alors,
entre consultation et décision, il y a quand même une grande marge de manœuvre.
Et encore en amont, mais là c'est aussi peut-être simplement l'expérience qu'en a fait la dame. Et à nouveau, il faut savoir quel est le but. Elle dit finalement, son intérêt à elle, il était pédagogique. Ça lui a appris des choses. Mais à nouveau, il faut savoir, est-ce que le but, c'est d'être pédagogique, et ça peut l'être, et c'est intéressant, ou est-ce qu'il s'agit de participer, de décider, etc. Et la question que vous me posez ici, et elle revient en fait dans les interventions précédentes, qui est la question de savoir, est-ce qu'on est consultatif ou est-ce qu'on a un vrai pouvoir ? Et c'est exactement pour moi le même problème que pour les différents comités d'éthique qui peuvent se former à différents niveaux dans les laboratoires ou dans le pays. Le fait de savoir, est-ce qu'on doit suivre obligatoirement ce qui a été fait ou est-ce qu'on s'exprime juste ? Et il y a un piège à vouloir du pouvoir parce que c'est exactement le même problème que la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires en France. C'est que si les gens qui participent à ça doivent en même temps se compromettre avec les réalités, tenir compte de l'impact des décisions, etc., et donc commencer à se mêler des problèmes de l'exécutif, en ce cas-là, ils ne vont pas dire la même chose. Alors que quand on a un conseil qui est purement consultatif. Ça veut dire que soit ce sont des gens qui sont soit des sages, soit des gens représentatifs, qui expriment des avis, des prises de position, qui essayent évidemment d'avoir un petit peu le sens des réalités, mais qui n'ont pas à déjà faire ce compromis de qu'est-ce qu'on pourra faire ou pas après. De même qu'un candidat ou quelqu'un dans un parti politique peut s'exprimer de façon assez idéale par rapport au monde, et une fois qu'il est ministre ou maire, il a bien à faire en fait ce compromis avec le réel et prendre des décisions au quotidien avec les contraintes. Là, on verse dans un autre monde. Et donc, je pense que c'est important de séparer qu'est-ce qui est, disons, de l'ordre du cahier des charges, de l'évaluation, de ce qu'on veut, du ressenti, après, de tout l'exécution de la décision et ses compromis. Et donc, on peut y perdre beaucoup à avoir obtenu un pouvoir.
Alors, dans ces premiers zooms que nous avons faits sur la démocratie participative, on peut dire qu'ils adoptent tous un peu la même manière de procéder, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont tous un lien avec le monde institutionnel, le monde des élus. Mais la démocratie participative, ça ne se résume pas que à cela. Il existe d'autres formes de participation citoyenne, une participation plus spontanée, j'ai envie de dire. Dans cette catégorie, c'est dans cette catégorie qu'on retrouve les blogs, les forums, les débats organisés par de simples citoyens comme vous et moi. Et on trouve aussi les cafés des sciences, ils en font également partie, les cafés sciences et citoyens. Fabrice Néret, vous êtes responsable de ces cafés sciences et citoyens à Grenoble. De quoi s'agit-il exactement, les cafés sciences et citoyens ?
Alors disons que par rapport à la démocratie participative, ça se place en amont et d'avoir de quoi nourrir le débat. Donc le principe, donc sciences et citoyens, ce sont pour tous ces sujets qui passionnent les gens, qui sont les points où science et technologie se confrontent à notre monde, donc qu'il s'agisse de médecine, d'écologie, de sources d'énergie, de recyclage, ou tout ce qu'on peut entendre, par exemple sur la loi des séries, les problèmes de la vaccination, des choses comme ça. Voilà, il y a un impact entre science et technique. Et en même temps, c'est pas aux experts de décider, c'est aux citoyens d'avoir des avis et de trancher à la fin. Donc les gens, ça les concerne. Le problème, c'est que pour nourrir leurs réflexions, ils ont pour l'instant uniquement ce qu'en disent les médias, avec beaucoup de mélange, avec beaucoup de petits côtés de la lorgnette, avec beaucoup de focalisation sur des choses très spectaculaires qui sont pas le problème. Et donc,
on a besoin de plus d'informations aujourd'hui.
C'est pas plus, sans plus d'informations. Parce que par exemple quand on prend ces fameux jurys populaires qui sont très à la mode, tels que ça avait été fait par exemple pour les OGM ou les manipulations génétiques, on se dit on prend des citoyens, on leur donne un cours avant et puis après ils s'expriment. La question c'est, est-ce qu'on évalue la qualité du cours ou est-ce qu'on les aide vraiment à avoir leur propre avis?
C'est toujours le même problème, on l'a vu dans les autres étapes de démocratie participative.
Alors typiquement nous ici, en fait on donne en pâture au public trois spécialistes, mais qui peuvent être des spécialistes techniques ou des élus ou des associatifs, qui offrent un regard aussi croisé que possible sur une question, et ils sont là complètement soumis, je dirais, à notre public. Et en fait, le débat, c'est le public qui le fait en leur posant des questions. Donc il ne s'agit pas au public de se prononcer sur est-ce que telle science ou telle technique fait ça ou fait ça. C'est le scientifique qui est là pour répondre.
On ne vient pas assister à un cours magistral, c'est
absolument
ça ?
Pas. Mais ni non plus pour... en même temps, les gens n'ont pas le même rôle. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté quelqu'un qui a une connaissance, de l'autre côté quelqu'un qui est citoyen. Le citoyen, pour pouvoir prendre ses décisions, interroge les différents spécialistes au regard croisé, éventuellement les met en porte-à-faux sur des points qu'ils n'avaient pas prévus, mais le simple fait d'avoir éventuellement un associatif et un industriel et un laboratoire, ça nourrit déjà beaucoup de choses. Et en fait, c'est complètement les rebonds entre les différentes questions et les réponses qui suscitent d'autres questions qui permet aux gens de se situer.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir se forger une opinion, pouvoir, à partir de différentes informations qu'on va avoir, on peut poser des questions et finalement... on peut se faire sa propre opinion au lieu d'avoir une opinion toute faite par les médias ?
Alors oui, et en plus, ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'est pas là pour apporter des réponses toutes faites. Pour nous, c'est réussi quand les gens, en partant, se posent encore des questions, mais cette fois-ci, c'est les bonnes questions, selon des axes qui sont un peu pertinents. Et surtout, par rapport au Yaka Faucon et aux facilités qu'on entend dans les médias, il y a le fait de se rendre compte, et à nouveau, ça, c'est être adulte, de se rendre compte, qu'il y a des compromis à faire entre... Voilà, souvent, on veut tout. On veut plus de recyclage, mais on veut plus de traçabilité, mais on veut moins de risques pour la santé, mais on veut que ce soit moins cher, et on veut tout décider, mais on veut que ça prenne pas trop de temps. Ben voilà, il y a des choses qui sont contradictoires entre elles, et c'est là où justement le choix du citoyen, c'est de positionner son curseur personnel entre ces différentes choses, en s'étant rendu compte qu'elles sont liées. Si on veut plus de transport en commun, c'est un peu moins de liberté, mais plus d'écologie. Si aujourd'hui c'est plus difficile de recycler, c'est aussi parce qu'on veut être sûr qu'il y ait absolument zéro bactérie, et donc on peut plus de nos jours juste relaver des bouteilles et les re-remplir. Et voilà, et il y a des liens là-dedans, et c'est à nous, en fait, de comprendre les liens entre tout ça et quel compromis, nous, citoyens, on voudra décider en fonction de ces différentes conséquences économiques, logiques, écologiques, scientifiques.
Ça veut dire que ici, la démocratie participative, c'est pas d'être près des élus pour dire nous, on veut ça, nous, on demande ça. C'est aussi de réfléchir ensemble. C'est ça, la démocratie participative aussi, c'est avoir un espace citoyen où on puisse réfléchir à ces questions.
Donc ici, c'est en amont, c'est de bien avoir compris, en fait, tous les axes, tous les enjeux, tous les liens qu'il y a, la globalité, en fait, des problèmes que souvent on nous montre pas. Quand on juge de savoir est-ce qu'il faut enlever ou pas une crèche ou un hôpital, bien souvent, en fait, la décision est faite très localement, alors que si on met globalement et qu'on lit ça, je sais pas, au réseau routier où le père de famille doit amener d'urgence sa femme qui a accouché, donc du coup, cette partie-là crée aussi des risques qu'on n'a pas tenu compte juste avec la taille d'un établissement hospitalier. Parce que c'est quand on met ensemble beaucoup de choses, on arrive à voir comment se tiennent toutes ces choses ensemble, quelles sont les conséquences globales, et pas juste se retrouver, quand on a posé la question de façon très parcellaire, à vouloir deux choses qui sont contradictoires entre elles.
C'est un peu ce qu'expliquait Nicolas Amodio dans les conseils de développement. On agit sur un front très large, on ne peut pas prendre une seule question et la résoudre sans penser à ce qu'il y a autour, c'est ça?
Voilà, et on comprend le lien et les conséquences qu'il y a entre un choix d'un côté sur des conséquences de l'autre.
Et vous me parliez également de l'existence de comités d'éthique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Bon, ça c'est... Il s'en crée, autant les cafés sciences et citoyens, il s'en est créé partout, beaucoup dans toute la France, autant les comités d'éthique, bon, il s'en crée au niveau de l'État, à haut niveau comme ça. Il y a plusieurs grandes entreprises ou grands laboratoires ou grands instituts qui ont voulu se doter de comités d'éthique, mais qui à ce niveau sont souvent assez près de la direction. Donc chaque fois le problème de savoir c'est qui représente, quelle crédibilité ils ont. Et à nouveau, plus ils ont de pouvoir, plus il y a d'enjeux de pouvoir et donc moins il y a de liberté d'expression. Il faut bien se rendre compte à nouveau qu'il y a un compromis à ce niveau-là. Et sur Grenoble, au niveau de l'UJF, de l'INPG, il y a aussi des comités éthiques qui essaient de se mettre en place.
C'est les universités, hein, c'est ça,
c'est... Alors, c'est pas les universités qui ont mis ça en place, mais il y a des gens motivés qui essaient de mettre ça en place.
Des gens qui réfléchissent dans les universités
et
qui se disent que...
Et ouais. À nouveau, tout ce problème de savoir à quel niveau on le situe, qui y représente, qui y participe et comment il se situe par rapport à l'organigramme de l'université, de ça va dépendre et la crédibilité et la liberté de parole, etc. Quoi.
Moi, j'avais aussi envie d'aborder en quelques mots... d'autres collectifs, des collectifs qui sont plus en marge de la société, qui ont envie peut-être de penser la société autrement et qui sont peut-être demandeurs d'autres formes de rencontres. Alors ces collectifs, comment en parler? Bon, aujourd'hui nous n'avons personne qui peut venir nous parler de ces collectifs, mais je pense par exemple à des groupes alors qui sont peut-être nés dans des squats, on va dire, où c'est un petit peu anticonformiste comme mode de pensée. On remet en cause de nombreuses choses, mais on a aussi envie de penser la société autrement, de reprendre à la base d'autres réflexions. Est-ce que vous connaissez ce genre de groupe? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un tout petit peu rapidement?
Alors, je connais d'un peu loin, mais en fait, disons que c'est des débats qui se passent entre voilà, la bifurque, le centre d'Alembert à Grenoble, l'ADEP, ce genre de choses. Voilà. Et alors, c'est souvent organisé par des gens qui poussent la démocratie tellement à l'extrême que, comme ils ne veulent pas mettre en avant telle ou telle personne, c'est même difficile de les dénommer et de savoir comment les appeler. Ça devient difficile à expliquer. Mais effectivement, on trouve là-dedans, pour le coup, c'est organisé par aucun élu, aucun débat. C'est vraiment quelque chose qui vient de la base. Bon, il y a des débats qui se passent de façon très très bien, très très organisée, très très enfin très très libre. Bon, puis d'autres qui sont un peu plus suspectes, et on les voit pas assez. Alors je trouve que eux ils pourraient faire peut-être un petit effort de lisibilité pour qu'on puisse au moins parler d'eux sans se tromper, mais effectivement c'est très sain et très intéressant, très vivant, de voir effectivement, bon, ils sont beaucoup mobilisés autour des nanos, des choses comme ça, bon, parfois avec beaucoup de fougue, mais voilà, c'est tout un aspect qu'il faut vraiment pas négliger, qui est intéressant à connaître, parce que cet aspect-là, il peut pas être suspect, disons, d'avoir été organisé par des politiques.
Mais nous prendrons le temps de les rencontrer dans l'avenir. Fabrice Néret, merci de nous avoir accompagnés au cours de ce dossier. La démocratie participative, c'est un domaine très vaste, on le voit. Merci de nous en avoir dessiné les contours. Yves Baudan. Au revoir Jean-Noël.
Au revoir.
Très bon week-end à tous.
De même. À bientôt.
À bientôt.